Il y a encore un petit problème technique.
Herr uns hineingestellt hat.
Seigneur nous a placés. Oui, il y a toujours encore un petit problème technique. Louez le Seigneur. Voilà, nous sommes là. Il y en a beaucoup que je ne peux pas voir, mais qui sont quand même là. Alléluia. Et c'est bon que le Seigneur ne nous apporte pas juste quelque chose, ne nous enseigne pas juste, que nous venions, nous progressions d'un pas. Ce n'est pas, comment dire, oui, aussi ce soir, le titre, est-ce que vous le voyez bien? Vous le voyez bien, c'est bon. Nous voyons quelque chose. Nous n'apprenons pas juste quelque chose, mais nous voyons quelque chose. C'est comme ça dans les choses spirituelles. Il nous faut le voir. Et si nous n'avons pas de vision, alors toutes ces contenus du plan de Dieu, de la nouvelle alliance, tous ces contenus nous paraissent des exigences, des choses que je dois apprendre, auxquelles je dois m'adapter extérieurement, mais nous avons besoin de révélations. Et justement, dans le livre de l'Apocalypse, c'est si clair. Comment s'appelle ce livre? Il s'appelle Apocalypse. En d'autres mots, le terme grec veut dire dévoilement. Il y a quelque chose qui est dévoilé, qui est là, que nous n'avons pas encore vu. Et Jean a pu voir des choses. Il n'a pas beaucoup appris, il a vu. Et c'est ce que, finalement, nous gagne pour le Seigneur. Pourquoi Pierre a suivi le Seigneur sans condition? Il l'a vu, il l'a connu. Le Père lui a révélé.
Et
cette vision est si décisive, si importante, spécialement dans ces derniers temps, que le Seigneur est le plus important. Beaucoup de choses vont se passer dans le monde. Il y aura même des développements dont nous n'avons pas encore connaissance aujourd'hui. Aucune idée. Tout est en mouvement. Et pas absolument pour le meilleur. Et c'est pourquoi le Seigneur nous ouvre les yeux sur les choses essentielles. Il a un plan. Et ce livre que nous lisons, dont il est parlé dans Apocalypse 5, est un livre avec sept sceaux. Et ce livre avec sept sceaux montre qu'il y a un mystère, qu'il est fermé, je ne comprends pas. C'est un concept qu'on comprend dans le monde. Il y a sept sceaux, il était entièrement écrit. Et c'est ce livre qui décrit le plan de Dieu avec les hommes, qu'il est en train d'accomplir. Ce livre, il l'avait dans sa main. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le connaître. Il y en a un qui était capable d'ouvrir les sceaux. Il a brisé les sceaux pour nous. Et à l'époque, c'était vraiment habituel d'avoir des parchemins enroulés avec un sceau, scellé d'un sceau. Et il fallait briser le sceau, dérouler le parchemin, et alors on pouvait connaître, prendre connaissance des choses qui étaient écrites. Et le Seigneur a utilisé la clé de David pour que nous puissions connaître le plan de Dieu. Et la première chose, c'est de connaître lui, de le connaître lui-même. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu ces jours un trône, et sur ce trône, un agneau. C'est le lion et c'est l'agneau. C'est un grand mystère. Mais cela nous montre que le Seigneur Jésus n'est pas juste l'agneau. Et nous l'avons vu très clairement ces jours. De loin, il n'en va pas juste de la rédemption. La rédemption est élémentairement, fondamentalement importante, mais il en va de tout le plan de Dieu. Et tout le plan de Dieu nous est révélé dans les Écritures. Nous en avons souvent entendu déjà parler. Mais il nous faut venir. Il nous faut prier, Seigneur, illumine les yeux intérieurs. Et nous voyons au chapitre 5, d'abord, que cet agneau a pris le rouleau. L'agneau était en mesure, en capacité de prendre et d'ouvrir ce rouleau. Parce qu'il a vaincu les lions de Juda, qui a vaincu, qui a été immolé depuis le début de l'univers. Et il y avait là beaucoup d'anges, des 24 anciens. Je ne pense pas que ce sont les anciens. Et il faut voir que cette scène avec tous ces anciens qui se sont agenouillés et ces anges depuis la création, il y a des myriades d'anges et il y a les anciens parmi les anges qui ont suivi le plan de Dieu. Ils servent comme des flammes de feu, et ils ont le droit de nous servir. Et toujours à nouveau, les anges sont là pour servir. C'est ce que nous lisons aussi dans le livre des Actes. En ce moment, nous le lisons et nous voyons des anges intervenir, comme par exemple l'ange qui est venu délivrer Pierre, ou quand cet ange est allé chez Corneille pour lui dire de chercher Pierre à Joppé. Ce sont pas les acteurs centraux, les protagonistes. Ça, c'est nous. Ça, c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux que les hommes, toujours à nouveau, voient cela. Le rouleau est donné à l'agneau et tous s'agenouillent. Et chacun avait une harpe, il nous a dit aussi. Devant l'agneau, c'est pas si sec. Je trouvais que c'était beau comme Helmut l'a décrit. On devrait pas le dire, mais oui, Helmut l'a dit, on chante pas des chants d'enterrement. Il y a de la musique là-bas. Louez le Seigneur. Amen. Il y a une musique céleste. L'agneau a vaincu. L'agneau s'est assis sur le trône. L'agneau est le roi. Le lion de Juda. Il a pris son royaume. Et il chante aussi un chant nouveau. Et lui, il est capable, il est digne d'ouvrir les seaux. Mais il n'y a pas que des harpes. Il y a aussi des coupes d'or remplies de parfums. Qui sont les prières des saints? Qui sont les saints? Ces coupes d'or qui sont remplies de parfums. Parfois, nous estimons le poids de nos prières auprès de Dieu. Et même si ce n'est qu'une courte prière, peut-être c'est une prière que pour un besoin personnel. Cela est toujours meilleur que de penser et de te faire des pensées ou d'aller chercher des conseils. C'est toujours important, c'est ce qu'il y a de mieux de prier. Et ce sont ces prières, finalement, qui vont provoquer le royaume, la venue du royaume sur cette terre. Nous le verrons encore, rempli de parfums. Du parfum. Nous voyons dans l'Ancien Testament qu'il y a un autel de parfum dans le temple. Et Aaron, je voudrais pas non plus aller dans tous les détails. Je veux pas la faire une interprétation complète. Mais Aaron devait tous les matins, quand il allumait les lampes du chandelier, il devait aussi faire brûler du parfum. Il devait offrir des parfums à l'Éternel. Et ceci nous montre que c'est bon d'allumer nos lampes le matin et d'apporter un parfum. Nous pensons pas si loin. Nous pensons que nous devons prier tous les jours. Je ne vais pas forcément prier, mais dis offrir des parfums. Seigneur, je viens à toi. Merci parce que j'ai un tel accès. J'ai le droit de venir à tout temps à toi. Je voudrais l'utiliser. Et ce n'est pas seulement que je veux quelque chose du Seigneur. Nous prions souvent pour que le Seigneur fasse quelque chose pour nous.
Mais le Seigneur aime nos prières. Il y a quelque chose qui monte,
qui réjouit notre vie. C'est cette beauté de Christ. Parfois, tu pries au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller à droite ou à gauche? Souvent, nous sommes dans une telle situation. Nous ne savons pas vraiment et nous avons besoin du Seigneur pour une décision. C'est aussi bon.
Mais de l'autre côté,
nous avons aussi besoin de prendre conscience de d'offrir, que nous devons offrir une telle coupe d'or que le Seigneur peut remplir de parfum. Je veux pas dire 3 minutes, seulement peut-être 10 minutes devant le Seigneur.
Seigneur,
cette communion. J'aimerais approfondir cette communion. Et le Seigneur apparaît dans sa lumière, nous apparaît. Et alors, notre relation avec lui devient plus intime, plus précieuse. Et elle devient plus belle.
Elle devient plus douce. Et c'est ce parfum qui se
libère et qui monte. Nos prières doivent monter. Ça doit atteindre le Père. Et souvent, nous prions, pas juste en fonction des problèmes, mais nous prions en étant orientés vers Christ. Nous voudrions prendre Christ dans nos prières et nous voulons nous laisser. Et nous voulons aussi nous laisser conduire par Christ. Et ce prix, cette valeur est si importante.
Et c'est aussi
intéressant, en lien avec ça, dans l'Ancien Testament, le frère fait un dessin avec le tabernacle.
C'est le lieu
saint, et au fond, il y avait le lieu très saint, H. Ici, il y avait le chandelier, et la table des pains de proposition, et tu rentrais par là, et tu avais cet autel de parfum là, devant le voile, l'autel d'or des parfums, et tu rentrais, Aaron et ses fils préparaient les pains de proposition, allumaient les chandeliers, et offrait des parfums sur cet autel. Et tout ça est devant le voile. Et ça, c'est le voile qui était dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Et maintenant, nous lisons dans Hébreux 9, peut-être regardez ça brièvement, Hébreux 9, je vais le lire. Hébreux 9, versets 3 et 4. Je peux commencer au verset 2. Hébreux 9, verset 2. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure. d'ailleurs appelé le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Donc, cette partie, le lieu saint. Appelé le lieu saint. Le H qui veut dire lieu saint.
Derrière le second voile,
se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Il y avait deux voiles, hein, à l'entrée du lieu saint et entre le lieu saint et le lieu très saint. Et on n'avait pas le droit de rentrer dans le lieu très saint. C'était là où il y avait l'arche de l'alliance avec le propitiatoire, avec les chérubins aussi. Et cette entrée était interdite au commun des mortels. Et seulement une fois par an, pour une fête, le souverain sacrificateur avait le droit d'y entrer. Et il avait le droit d'y rentrer.
Und hier in Hebräer, Kapitel 9, lesen wir jetzt, dass in dem Inneren, im Allerheiligsten, also hinter dem Vorhang, dieses hatte den goldenen Räucheraltar.
Nous lisons derrière, il y avait le lieu appelé le Saint. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums. Et pour les interprètes, là, il y a une question, un questionnement. Est-ce que l'apôtre s'est trompé?
Je vais faire ça maintenant
différemment.
Trois cercles.
Stelle ich jetzt mal daneben.
Das ist unsere Seele. Ce deuxième cercle,
c'est notre âme. Hein, c'est l'homme en trois parties. Nous avons tous une âme. Avec tous les sentiments, les pensées, tout ce qui nous meut. Nous sommes une âme. Ce que nous pouvons, savons. Et au fond de nous-mêmes, il y a notre esprit. Et nous sommes, comme nous avons entendu, quand nous avons entendu Jésus, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de l'esprit. Et ceci se passe dans notre esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est un esprit avec lui.
Paulus spricht sogar gar nicht so oft von dem Heiligen Geist.
En fait, Paul ne parle pas
si souvent du Saint-Esprit, il parle de l'Esprit. J'étais en Esprit, le Seigneur soit avec ton Esprit, marcher en Esprit. C'est ton Esprit dans lequel le Seigneur habite. Dieu s'est, Christ s'est rendu si un avec nous. L'accomplissement de cette prophétie dans Ézéchiel 36, je mettrai mon esprit en vous. Et ça, c'est merveilleux. L'esprit du Seigneur est dans notre esprit.
Et là,
il y a une
bonne explication. Ce n'est peut-être pas l'explication finale.
Dans Exode
30, l'autel est devant le voile. Dans Hébreux 9,
nous avons
l'autel derrière le voile. Dans l'ancien alliance, on ne connaissait pas l'esprit encore. Parfois, l'esprit venait sur un prophète, mais qu'on pouvait connaître l'éternel par un esprit était totalement inconnu. C'était fermé. Mais Paul était quelqu'un qui connaissait l'esprit. C'est notre expérience. Nous pouvons l'expliquer avec notre expérience. Parfois, tu commences à prier, tu es pleinement dans ton intelligence. Mais si tu continues à prier, tu remarques, tu arrives dans l'esprit.
qu'il y a du parfum qui monte, il y a de nouveau quelque chose. L'esprit coule de nouveau. C'était un peu difficile. Parfois, tu viens à la réunion de prière, personne ne commence. Oh, il faut vraiment tirer. Tout le monde vient de son quotidien. Et là, nous sommes là. Il faut que quelqu'un commence. Et qu'importe comment, commence. Commence derrière le, devant le voile, et tu commences dans ton âme et tu vas atterrir en esprit. C'est ça la prière. Comment pouvons-nous connaître l'esprit? Vous savez comment j'ai connu mon esprit quand j'ai, et que j'ai vu le Seigneur? C'est quand j'ai prononcé ma première prière consciente. Il n'y a plus de questions. Tu as connu le Seigneur. Et il nous faut continuer à l'exercer. Et l'ennemi veut toujours nous le voler. Et cela joue un rôle très important devant le trône. La prière nous amène en esprit. Considère ce point. Tu dis, peut-être je ne sais pas si je suis en esprit. Et il y a une prière que je prononce très souvent en deux mots. Seigneur Jésus. Ne pense pas que ce ne soit pas une prière. C'est vraiment cette connexion au Seigneur. Consciemment, je ne sais pas si je suis un avec le Seigneur. J'invoque le nom du Seigneur. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et personne ne peut dire Seigneur Jésus que par le Saint-Esprit. Et nous devons en tout temps, il y a un verset très important que nous avons déjà lu, Éphésiens 6 ces jours-ci. 16 et 17. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit. Paul écrit ça à la fin de l'épître aux Éphésiens, dans cette épître où il a présenté de manière si claire l'Église aux frères et sœurs, comme dans aucune autre épître. Mais il faut ces armes à la fin, afin que l'ennemi ne nous vole pas cette vision. Il nous faut être armés. Prenez aussi le casque du salut. Pourquoi tu as besoin d'un casque? Quand tu roules en moto, tu as besoin d'un casque. Et même pour en roulant en vélo, c'est bon d'avoir un casque. Protège ta tête. Le casque du salut, c'est Christ. Que nous prenons. Ils sont pleins de pensées qui viennent de partout. Il y a des influences. Protège-toi. Prends Christ comme le casque du salut. Et il est dit aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Certains ont dit que ma Bible est l'épée. Ce n'est pas tout à fait vrai. Cette lettre sans l'esprit n'est pas une épée. Cela peut même causer des dommages. Cela peut tuer, la lettre tue. C'est qui vivifie? C'est l'esprit qui vivifie. Il nous faut lire la parole avec l'esprit. C'est comme une arme. C'est la super arme. C'est comme c'est sorti durant ces jours. Comme Jean l'a écrit dans son épître, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et pourquoi ils sont forts? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Ceci nous rend forts. Laisse la parole demeurer en toi. Et encore mieux, prends-la avec l'esprit, cela rend de tels effets. Et nous lisons aussi dans Romains 8, c'est très bon. Parfois nous ne savons pas comment prier. Et là, qu'est-ce qu'il nous est montré?
que quand nous ne savons pas comment prier, mais il nous est donné l'Esprit. Romains 8, verset 26. Nous pouvons le lire à Karlsruhe.
De même aussi, l'Esprit
nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Oui, c'est merveilleux, l'Esprit.
L'Esprit intercède. Il y a des situations où je ne sais pas comment prier, comment, mais l'Esprit. Je viens au Seigneur et l'Esprit m'aide dans la faiblesse, dans ma faiblesse. Et si ce n'est qu'un soupir, il y a des situations où tu ne peux que soupirer devant le Seigneur. Mais c'est une prière et l'Esprit est en train d'agir. Viens avec toute chose au Seigneur. Ça, c'est le côté personnel. Chacun de nous, personnellement, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de notre vie chrétienne, d'une vie chrétienne avec le Seigneur. Le Seigneur a toujours pratiqué cette unité avec le Père. On l'a toujours trouvé à nouveau, séparé, isolé, et en train de prier avec le Père. Et c'est un tel exemple. Quand je suis venu dans l'église nouvellement, j'avais régulièrement de la communion avec un frère, parce que nous étions proches.
Il était plus âgé que moi.
Quand je venais avec un problème, ou j'avais quelque chose qui me préoccupait, je lui partageais.
Très souvent, il
commençait à prier. Il ne disait pas, discutait pas la chose ou donnait un conseil, il priait.
Et
aujourd'hui, c'est un exemple pour moi.
Il nous faut dans l'Église
des gens qui prient, qui viennent au Seigneur, qui ont une relation avec le Seigneur. Et en fait, nous devrions tous être de telles personnes qui prient. Et nous arrivons au point B.
Dieu attend notre
coopération.
Il n'en va pas juste que nous
venions avec nos affaires, nos problèmes au Seigneur. Nous avons une relation personnelle, mais il en va aussi du plan de Dieu que Dieu veut accomplir. Et c'est pour cela que ces coupes avec, remplies de parfums sont importantes. Seigneur, vous a donné des exemples. Dans 2 Pierre, Pierre nous a donné un verset, c'est 2 Pierre 3.
2 Pierre 3, verset 9.
Jusqu'à 13. 2 Pierre 3, verset 9 à 13. Pour que ça aille un peu plus vite. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il a promis de revenir et de faire venir son royaume, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur est patient. Il nous donne aujourd'hui, toujours à nouveau, nous tourner, nous repentir, quelle que soit notre situation. Le Seigneur est si patient, si longue à mine. Il te donne l'occasion de te tourner. Peut-être jusqu'à maintenant, tu n'as pas pris le Seigneur si sérieusement. Mais le Seigneur te donne la possibilité de te tourner. Il te donne nouvellement la possibilité de te tourner vers lui. Et nous devons le prendre au sérieux. Verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. » Il va se passer des choses. Il y a encore des choses avant.
heißt, der Herr wird diese Erde und diese
Seigneur
richten.
Va juger cette terre, ce monde. Il va juger ce monde.
Und dann heißt es, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr da sein?
Alors il est dit au verset 11,
puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Le mot jour dans la langue grecque veut aussi dire le jugement. Quand le jugement arrive, c'est le jour.
Jour du Seigneur,
c'est le jugement qu'il va amener. Il ne revient pas juste, il viendra pour juger.
Et en allemand, c'est par le fait que vous attendez
et hâtiez l'avènement l'avènement du jour de Dieu. Et là, nous, c'est une expression extraordinaire, nous pouvons contribuer à accélérer la venue du jour de Dieu, nous pouvons aider à la venue de ce jour, pas par le fait que nous apprenions des choses, des pratiques, mais que nous éprouvions notre relation avec le Seigneur et que nous entrions encore plus dans cette communion avec lui. Quand il amènera son jugement, il ne voudrait pas amener ce jugement sur nous, mais avec nous. Garde cela en mémoire. Et puis un verset dans Matthieu 18:18. Et là, il est question. Il est question donc. Avant, Pierre avait eu cette révélation de Jésus-Christ. Et le Seigneur, alors c'est Matthieu 16:18, je crois.
Oui, je me suis
trompé, c'est Matthieu 16:18.
Donc, Pierre a reçu cette révélation de Jésus-Christ au verset 16, et Jésus répond, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que le porte du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. » Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Là, il y a une clé du royaume qui est transmise. C'est pas la clé que Pierre va utiliser pour ouvrir ou fermer la porte du royaume aux gens dans l'ail. Il y a une image totalement déformée par la religion. En fait, cette clé a été donnée à Pierre et à l'Église pour lier et délier. Nous avons beaucoup entre les mains, mais nous n'avons pas conscience. Nous voyons toujours nos faiblesses. Combien nous sommes des créatures indignes et que par notre nature, nous ne correspondons pas au royaume de Dieu. Nous échouons, nous péchons.
Et le Seigneur nous a offert
une position si merveilleuse, une mission. Comment on va réagir? Je suis pas digne. Laisse-moi en paix. Je suis content si je suis racheté. Et puis, je serai content si je viens un jour au ciel. Mais le Seigneur va te dire, moi, ça me suffit pas. Je t'ai racheté. Comme un sacrificateur et un roi.
Et je voudrais que tu
règnes avec moi. Comme nous l'avons aussi entendu ce matin. C'est le plan de Dieu. Moi, je ne l'ai pas cherché.
Je préférais
être un petit membre qui garde la porte. Je veux rien être. Mais le Seigneur me dit, tu es un prêtre, tu es un roi, tu es un sacrificateur et tu dois régner. Mais moi,
comme nous avons entendu ce matin, régner par Christ, c'est quelque chose de totalement différent de ce que nous voyons dans le monde.
Je me souviens toujours
encore comme ce que ma femme m'a raconté un jour au travail.
Une collègue
avait dit à mon épouse, elle lui a dit, c'est si beau que tu sois là, depuis que tu es dans notre section, c'est si paisible, il y a une bonne atmosphère, alors qu'avant il y avait plein de problèmes. Plein de problèmes entre les collaboratrices. C'est ça que ça veut dire régner par la vie, régner par Christ. Nous amenons une influence. Nous amenons du sel dans notre environnement, de la lumière. Ne sous-estimons pas notre mission. Et là, nous avons même un plein pouvoir pour lier et pour délier. Et le Seigneur n'a pas juste enseigné ses disciples à prier pour leurs besoins. Il les a enseignés à prier pour son plan dans Matthieu 6, verset 9. Nous le connaissons tous. Cela est souvent prié en tellement de situations de réunions. Et on le répète. Mais il n'est pas question de répéter ces mots. Il est question du contenu, de l'orientation que donne cette prière, la direction. Il commence, quand vous priez, ne priez pas comme les hypocrites. Ça, c'était au début du chapitre 6, Matthieu 6, 5. Et puis verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Mais tu peux prier des vaines paroles même à partir de la Bible, parce que tu ne sais pas de qu'est-ce que tu dis. Le problème n'est pas d'apprendre par cœur. Il nous faut voir les choses. Et donc au verset 9, Matthieu 6, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Tu commences à prier au Père. Il y a peu de temps, nous avons pris cet épître aux Galates. Dans un chapitre, c'est tellement beau, c'était beau de voir que nous avons reçu l'esprit du Fils qui a été déversé dans notre cœur et qui crie « Abba Père ». Dieu est notre Père. Et Abba, ça veut dire « Papa ». Nous avons une relation si intime, si proche avec le Père. Est-ce que nous en prenons soin? Il est bon. Souvent je dis « Abba Père » ces derniers temps. Cher Père. Et je perds souvent au Père consciemment. Il est la source. C'est mon Papa. Je suis né de lui, né de nouveau. Louez le Seigneur. Et en même temps, nous ne disons pas juste « à Papa à ». Un papa, papa. Parce que nous ne sommes plus des petits-enfants. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas des bébés. Nous avons l'esprit du Fils. L'esprit de filialité. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pas juste, donne-moi ça, l'Église a besoin de ça, donne-moi ça. Mais ton nom, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et là, nous sommes au point. Là, nous voyons le trône. Tu ne vois pas le trône, là? Là, je le vois. Que ton règne vienne. C'est la direction, c'est le but. Que ta volonté soit faite. Nous avons beaucoup de choses que nous voudrions. Mais Dieu a aussi une volonté. Que nous soyons si orientés selon le plan de Dieu.
Il est important
que je ne règle pas mes choses personnelles en dehors du plan de Dieu. Mais fondamentalement, quelle est la volonté de Dieu?
Le Seigneur a dit, je veux
bâtir mon église. C'est une déclaration si claire. Dans un autre passage, il est dit, il veut que, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu.
Notre volonté
sous la volonté de Dieu, c'est une telle libération quand nous ne pensons plus à nous-mêmes et que nous nous réunissons, pas juste de prier pour les problèmes les uns des autres dans leur famille, dans leur environnement. C'est bon de prier pour ces choses, mais dans l'Église, il nous faut aussi une orientation, une direction. Et c'est ce que nous voyons dans toute l'Écriture. Le Seigneur nous enseignait à prier.
Et alors, après ces premières
prières concernant le plan de Dieu, alors après, il nous dit aussi de prier pour notre pain quotidien. Oui, nous prions pour ta volonté. Seigneur, donne-nous aussi notre pain quotidien. Pardonne nos offenses. Le Seigneur nous pardonne. Nous avons toujours nouveau des péchés. Nous commettons des péchés. Mais tout est pour son plan. C'est pas juste pour notre bien-être personnel. Il n'en va pas au sujet de nos sentiments, mais au sujet de l'esprit, au sujet du plan de Dieu, de son règne. Et nous voyons dans Actes comment l'Église prie. Le Seigneur a enseigné ses disciples à prier. Et dans Actes, nous voyons un live, je dirais. Comment, à quoi ça ressemble? Et le livre des Actes, c'est comme une vidéo d'il y a 2000 ans. Tu peux toujours la regarder. Et il n'y a pas de publicité dans cette vidéo. Et tu vois toujours à nouveau quelque chose de nouveau. Parce que c'est la parole de Dieu. Au chapitre 4, il y avait un problème. Les frères ont été faits prisonniers, ont été interrogés. C'était une situation assez délicate. C'est là que la persécution des chrétiens a commencé, les premiers disciples de l'Église. Et alors, il est dit, quand les frères et sœurs ont entendu cela, au verset 24, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Comment est-il quand vous priez?
J'ai entendu parfois des prières
où la voix descendait.
Élevons notre voix
quand nous prions. Nous avons affaire avec l'agneau sur le trône, avec le Dieu vivant, qui est vivant, qui règne sur toutes choses. Nous n'avons pas à baisser la voix, mais à l'élever. C'est pas un moment triste quand nous venons dans sa présence. C'est un privilège. Nous pouvons venir avec hardiesse.
Ils ont été
si courageux dans la prière. Oh Seigneur, maintenant on voit la situation. Nous sommes maintenant persécutés. Et probablement, nous devons avoir peur des attaques de ces scribes, de ces prêtres. Ils ont prié totalement différemment. Ils ont prié, ils ont élevé leur voix et ils ont prié d'en haut.
Je ne sais pas quelle était leur conscience
de Christ sur le trône. Ils le connaissaient. Et Pierre avait annoncé ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est merveilleux. Et nous croyons à ce Christ et nous sommes un avec lui. Nous nous identifions à lui, avec ce Christ. Et ils ont prié en utilisant un psaume. Ils ont prié un psaume. Frères et sœurs, souvent, il est bon de prendre aussi la Bible, la parole comme base de nos prières. La parole.
Le psaume 2.
Il est dit, Seigneur Jésus, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Et un peu plus tard, il est dit,
que Dieu
rit même. Laisse-les faire quand ils s'énervent dans le monde. Nous sommes du côté du Seigneur. Nous suivons le Seigneur, nous sommes fidèles.
Et si nous prenons cette prière, la transposons,
die Könige der Erde traten zusammen und so weiter. Ja, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt.
Also, et alors ils ont transposé
la prière de ce psaume écrit des siècles avant et ils l'ont transposé dans leur situation. Oui, ils se sont ligués dans cette ville. Nous lisons, nous vivons ce que dit ce psaume. Ils se sont ligués dans cette ville. Ça, c'est le verset 27. Hein. Et parfois, tu lis la parole et tu dis, mais ça correspond tout à fait à ma situation. Et en effet, quand ton saint serviteur Jésus, maintenant, il a un nom, ce serviteur, loin, alors que dans le psaume 2, ce n'était que loin. Le Messie. Mais là, c'est Jésus que tu as loin. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu avait tout arrêté d'avance. Pourquoi dois-tu encore prier?
Ils n'ont pas prié que
cette situation change. Que Hérode et que les scribes arrêtent. Ils n'ont pas prié pour ça. Mais pourquoi ils ont prié? Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils profèrent des menaces, ils ouvrent leur bouche contre l'Église, mais maintenant donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Non, ils n'ont pas prié, détruis-les, ferme-leur la bouche, non. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Il est important que nous prononcions la parole. C'est important que nous prions. L'Église a su comment elle devait prier.
Et c'était dans leur nature.
Plus tard, il y avait encore une situation, c'était dans au chapitre 12, Pierre avait été arrêté, verset 5, Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ils ont prié pour sa situation.
Et attention, le frère Jacob...
Jacques avait été déjà exécuté par l'épée d'Hérode. Et là, toute l'Église a prié. Ils n'ont pas prié une fois par semaine. L'Église priait sans cesse à Dieu. Ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Frères et sœurs, la prière importante est...
Et je me le dis aussi
à moi, j'ai pris conscience durant la préparation. Il nous faut découvrir nouvellement la prière. Le Seigneur nous a donné cela, cette arme dans la main.
Et peut-être faut que j'ajoute
encore.
Nous savons tous comment on prie.
Und auf der anderen Seite noch mal was anderes, wirklich zu beten.
Mais c'est encore autre
chose que de prier.
Für uns, wir sollten uns entscheiden, wir sollten einen Entschluss fassen. Herr, ich möchte.
Il nous faut prendre
une décision. Et me donner
pour la prière. Parfois, nous sommes peu de frères et sœurs dans la réunion de prière. C'est clair, il y a peu de chants, il n'y a pas de messages. C'est durant la semaine, le soir.
Là, on peut reconnaître
combien la prière nous est importante si nous sommes là. Et même le Seigneur nous a facilité les choses. Tu peux même te connecter à la réunion de prière de ton bureau, de ta cuisine, et tu peux même participer à la prière chez toi. Nous avons des frères et sœurs qui ne viennent pas physiquement à la prière, mais qui se connectent et ils participent activement. Et c'est important. Nous avons besoin d'une culture de la prière dans l'Église. Quand nous considérons l'Église, nous devons voir que la prière doit être une partie importante. L'Église doit être une maison de prière, ce que nous dit Matthieu 11. Dans le temple, il y avait tellement de trafic, et nous aussi, avec nos idées, nos pensées, nous pouvons amener tant de choses dans l'Église.
Mais qui est celui
qui amène une conversation sur la prière? C'est ce dont nous avons besoin. Seigneur Jésus.
Il faut toujours
à nouveau nous vaincre. Ouais, on a une bonne discussion, mais viens, on prie encore. Seigneur Jésus.
Et maintenant, je voudrais encore citer un point
dans Apocalypse 8 que nous avons lu. Il y a encore une autre situation avec ce parfum. Dans Apocalypse 8, verset que nous avons lu.
Il y a dans le ciel un silence d'environ
une demi-heure. C'est tout ce qui se passe après. Il y a tous les événements avant la venue du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Ne prie pas contre les choses que le Seigneur envoie. Le Seigneur va envoyer le jugement sur cette terre. Prie que tu sois épargné par le jugement. Mais encore mieux, rends-toi un avec celui, avec le Seigneur qui amène le jugement. Amène le jugement avec le Seigneur. C'est aussi la mission de l'Église. C'est fort. Et c'est ainsi.
Verset 1. Quand il ouvrit le
septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure.
Et Jean décrit ce qu'il voit. Et je lis les sept anges
qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Qui amène le jugement à la fin des temps.
Et un autre ange vint
et se tint sur l'autel. Et regarde ce qui se passe à l'autel.
Ayant un encensoir
d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Je suis convaincu que si nous commençons à prier,
il y a ces anges qui viennent,
qui remplissent nos prières de parfums. Et nous avons besoin de cela durant ces derniers temps.
Il faut cette Église qui
œuvre avec lui.
Notre prière est
un vase. Et le parfum dans ce contexte, ce n'est pas juste au chapitre 5, pas juste un parfum qui monte devant Dieu.
mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott.
Il est dit, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Notre prière produit quelque chose. Il y a eu des choses qui ont été jetées sur la terre.
Ce sont les anges qui
l'ont fait par la prière des saints.
Et il y a ce silence
parce qu'il y a cette attente.
Et alors il y a cette situation. Et après il y a des choses qui arrivent,
des voix, des coupes, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner et qui amènent ces jugements pas à pas sur la terre. Les hommes vont être jugés, ça doit venir.
Plus loin.
Je l'ai pas noté. Il y a aussi ces martyrs sous l'autel qui crient à Dieu.
Combien de temps vas-tu encore attendre
pour juger le sang de ceux qui ont versé ton sang pour toi? Ça, c'est le cinquième sceau dans Apocalypse 6, verset 9. Et le Seigneur les tranquillise et leur dit, ce sera plus pour longtemps. Et tous veulent que le jugement arrive.
Le ciel ne fait
rien sans le désir de la terre.
Dans Ésaïe. Qu'il faut même dire
à Dieu ce qu'il doit faire concernant son œuvre. C'est un passage dans Ésaïe. Il n'a pas cité la référence. Et nous prions pour sa venue. Et nous prions que son jugement vienne et que son règne vienne.
Aussi dans le psaume 28.
J'ai encore lu ce psaume aujourd'hui, psaume 28. Un psaume sur le jugement.
Je crie à toi, ne
te tais pas. Verset 1. Verset 1. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. Verset 2. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques. Psaume 28, verset 3, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Verset 4, rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Ils étaient prêts à ce que le jugement soit exécuté. C'est le psaume 28. Il a tout confié au Seigneur.
Ce jugement contre ces hommes
qui s'élevaient contre Dieu.
Verset 6. Béni soit
l'Éternel, Kalir. Il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en qui mon cœur se confie et je suis secouru. Et il y a beaucoup de versets qui montrent combien la prière est importante. Pour terminer, dans Ésaïe 62, versets 6 et 7, deux versets. Ésaïe 62, versets 6 et 7.
Un court chapitre. Da heißt es, auf deine Mauern, Jerusalem.
Ésaïe 60.
Seigneur Jésus,
lass ihm keine Ruhe, bis er Jérusalem wieder aufrichtet, bis er es zum Lob.
Mais c'est sur tes murs j'ai placé des gardes. Alléluia.
Et ça, c'est cette prière. Hein.
Je trouve pas la référence là. Alors, en fait, ces gardes qui sont sur les murs de Jérusalem, ils prient. Ils prient pour le plan de Dieu. C'est une prière qui a un but, afin qu'ils viennent. Et ça, c'est merveilleux. Oui, je sais pourquoi. Excusez-moi. C'était Ésaïe 62, hein. Je me suis trompé, j'étais dans les psaumes encore. Louez le Seigneur. Nous sommes importants, frères et sœurs. C'est pas juste de rester auprès du Seigneur, mais de travailler avec lui. Et pour coopérer avec le Seigneur, la meilleure manière, c'est de prier.
Il est dit à la fin
de l'Apocalypse que ses serviteurs le serviront comme sacrificateur. Ils seront derrière le voile, ils seront pas devant, ils seront dans le Saint des Saints en esprit, devant le trône. Louez le Seigneur. C'est le trône est dans le Saint des Saints, là où il y a l'arche de l'Alliance. Et là, il y a le trône de l'arche dessus. Le Seigneur est roi. Alléluia. Le Seigneur règne. Et nous nous réjouissons que nous pouvons être avec lui. Nous aimerions vraiment terminer notre course avec lui pour être fidèles. Le temps veut nous rendre tièdes. Nous endormir.
Le Seigneur nous dit, soyez sobre éveillés.
Louez le Seigneur.